Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour les conférences du Carême protestant. Durant toute la période du Carême, nous vous proposons une série de conférences sur les fondamentaux du protestantisme autour de cette idée forte de Luther, Coram Deo, vivre devant Dieu. Cette année, nous serons en compagnie de Jean-François Brenne, pasteur de l'Église protestante unie de France, à la paroisse luthérienne Saint-Jean, à Paris. Pasteur Jean-François Brenne, bonjour.
Bonjour.
Vous intitulez cette troisième conférence « La Bible, une rencontre inattendue, une parole à vivre ». Alors pour commencer, une question, comment peut-on parler de rencontre au sujet de la Bible et en quoi est-ce inattendu ?
En fait, ça s'enracine dans mon histoire personnelle, tout simplement, adolescent. J'ai vraiment été confronté au texte biblique, je me suis confronté à lui dans une rencontre presque physique parfois, jusqu'à des 3-4 heures du matin de lecture, et chaque fois j'y ai découvert quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver, ou en tout cas quelque chose qu'on ne m'avait pas dit que j'y trouverais, et c'est comme ça qu'a commencé en fait cette histoire, et je dois avouer que encore aujourd'hui, le plus souvent quand je travaille un texte biblique, j'y découvre quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver, d'où cette dimension de l'inattendu.
Et vous nous expliquez dans cette conférence en quoi la Bible peut être une rencontre. Pasteur Jean-François Brenne, je vous laisse maintenant la parole pour ce temps de conférence.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Ces versets du psaume 67 nous posent un problème crucial. Comment, en effet, avons-nous connaissance de ce visage ? Comment peut-il s'illuminer pour nous ? Ou pour le dire autrement, quel est le lieu de cette illumination ? Une réponse, que nous recevons aussi du judaïsme, s'impose. D'abord et avant tout, à travers les pages de la Bible. Écoutons Marguerite de Navarre dans cette langue savoureuse du XVIe siècle. « Ô livre écrit de la divine main, manne très douce et nécessaire pain, sans lequel est notre âme pique morte, bienheureux est qui en la main te porte, et en son sein comme un trésor te garde, et plus heureux qui te lit et regarde, et par plaisir avec toi confère. Mais très heureux, celui qui te préfère à tous les biens que le monde lui donne, lesquels pour toi sans regret abandonne. » Ô livre écrit de la divine main. Cette expression fait surgir une question redoutable. Nous avons en christianisme pris l'habitude de parler du texte biblique comme de la parole de Dieu. Livre écrit de la main divine, dit Marguerite de Navarre. Mais qu'en est-il vraiment ? De fait, il faut oser le dire et même l'affirmer sans ambiguïté, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pas plus qu'elle n'a été écrite de la divine main. Non, la Bible est un recueil de récits, écrits de mains humaines, par des hommes et peut-être quelques femmes, qui ont fait une expérience du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifesté pleinement en Jésus le Christ. Et c'est par et à travers leur témoignage que se donne à entendre une parole, cette fois bienvenue d'ailleurs, de Dieu lui-même. Et cela n'est pas l'affirmation d'un théologien libéral postmoderne. Luc, dès le début de son évangile, nous le dit en toute simplicité, je le cite, « Il s'agit des premiers versets du premier chapitre. » Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis, ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Luc ne dit pas avoir écrit sous la dictée divine, mais bien qu'après s'être soigneusement informé de tout, il lui a paru bon d'écrire le récit des événements passés. Je relève que Luc ne dit pas non plus avoir été un témoin direct, mais bien qu'il a fait un travail d'enquête auprès des témoins oculaires et qu'il a rassemblé et compilé ces témoignages en un récit ordonné. Le statut de notre texte est donc celui d'un témoin qui nous donne, à travers un récit humain, à rencontrer une parole divine. Les récits bibliques sont comme les traces de l'agir de cette parole dans la vie des hommes. Ils sont les médias de la parole divine. Et le réformateur Martin Luther l'exprime avec ces mots très imagés. Il compare la Bible au berceau de jonc qui portait Moïse sur les eaux du Nil. Le berceau n'a de valeur qu'à cause de l'enfant qui s'y trouve couché, dit-il. Le berceau n'est pas l'enfant, mais sans le berceau, l'enfant se serait noyé et aurait péri. Et le réformateur de préciser, de même, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais sans la Bible qui la porte, la parole divine ne nous parviendrait pas. Ailleurs, il emploiera les images de l'amande et de sa noix, ou de l'épée et de son fourreau. De sorte que la parole de Dieu, en tant que telle, toujours nous échappe. Et même si, pour un chrétien, elle s'est faite chair en Jésus le Christ, elle nous échappe encore à nouveau, car faut-il le préciser, nous n'avons aucun écrit de sa main. Sa parole, celle du Christ, se donne à entendre pour nous, au travers les pages des évangiles, et les lettres des apôtres Paul, Pierre, Jacques ou Jean, et puis sur les visages des hommes et des femmes qui témoignent et vivent aujourd'hui de cette parole. C'est-à-dire toujours à travers la médiation d'un langage et d'un visage humain. Pas d'accès direct. Et c'est tant mieux, car cela devrait nous mettre à l'abri du piège de l'immédiateté avec le divin, c'est-à-dire celui de l'idole, ou bien celui d'une lecture littéraliste qui peut vite conduire à une posture fanatique. Cette distance entre la parole et le texte ouvre le champ de l'exercice de notre liberté qui s'exercera ici par le travail de l'interprétation. Rappelons chemin faisant que le corpus biblique est un ensemble complexe qui relate une collection d'expériences, de réflexions de la foi d'hommes et aussi de femmes à des moments déterminés de l'histoire. Le texte biblique ne raconte pas ce qui s'est passé. Il n'est pas un reportage au sens moderne du terme, mais il dit comment ce qui s'est passé a été compris et a fait sens pour la communauté qui le transmet. La Bible, c'est d'abord cela, que l'on soit croyant ou non, une incroyable collection de témoignages de la vie, de la piété, des croyances d'hommes et de femmes qui vivaient autour du bassin méditerranéen entre moins 1500 et plus 120 de notre ère. De plus, la Bible n'est pas un livre, mais une mini-bibliothèque portative, composée de très nombreux livres, très divers entre eux, rédigés à des époques différentes, dans des langues différentes, par des auteurs différents. C'est dire l'incroyable richesse littéraire de ce trésor de l'humanité qu'est ce monument de la littérature antique, et en même temps la difficulté de sa lecture, car on ne lit pas un code législatif daté dans une histoire particulière, comme une parabole. Mais pour les croyants, ce corpus, cet ensemble de textes, n'est pas que cela. Il est aussi l'endroit, pour eux, où la parole de Dieu se donne à entendre. Il est le lieu même où Dieu se donne à rencontrer. Dans une parole qui se donne à entendre et à rencontrer à travers de vieux mots usés. Cette parole venue d'ailleurs devient pour celui qui la reçoit porteuse de sens, créatrice de sens, ouverture à un sens possible de nos vies. Car c'est la parole qui fait vivre, qui nous fait vivre. Oserais-je le dire? On ne naît pas humain, mais on le devient, par la seule force d'une parole reçue qui nous ouvre à notre propre parole et ce faisant à notre devenir humain. Vérité universelle que pourtant trop souvent nous oublions. Paul Éluard en témoigne admirablement à sa manière de poète. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère, et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes, et certains noms d'amis. Fin de citation. Oui, il y a des mots qui font vivre. Et cela, le peuple d'Israël en fait l'expérience lors de son exil à Babylone au VIe siècle avant notre ère, lorsqu'il semble avoir tout perdu. Plus de terre, plus de roi, plus de temple. C'est vraisemblablement là que les textes deviennent, pour le judaïsme en exil, le lieu où se révèle toujours à nouveau son identité. C'est par ces mots qu'il puise la force de sa résistance, c'est sur eux qu'il fonde son assurance. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, devient véritablement le lieu où Dieu se tient, d'où il parle à son peuple, où il révèle sa présence. Nous trouvons dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, un témoignage vivant du statut qu'a acquis le texte biblique au retour de l'exil. Je cite « Tout le peuple, comme un seul homme, se rassembla sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrit à Israël. Il lut dans le livre, sur la place qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'au milieu de la journée, en face des hommes, des femmes et de ceux qui pouvaient comprendre. Les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi. Le scribe Esdras était debout sur une tribune de bois qu'on avait faite pour la circonstance. Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Il lisait dans le livre de la loi de Dieu, de manière distincte, en donnant le sens, et il faisait comprendre ce qui était lu. » Je relève que notre texte précise « en donnant le sens, faisant comprendre ce qui était lu ». Et nous découvrons ici la question de l'interprétation. Elle est essentielle à notre sujet, nous allons y revenir. Mais avant, encore un point concernant le statut du texte biblique. Il est, pour les réformateurs, la norme de la foi et de la vie. Mais la réforme protestante ici n'invente rien. La Bible a toujours été, depuis l'aube du christianisme, la norme de la foi et de la vie. Le lieu de la révélation, nous l'avons vu. Mais là où la réforme innove, c'est en hiérarchisant, en faisant du texte la seule norme de la foi et de la vie. Dans le christianisme médiéval, les Écritures étaient bien sûr étudiées, et savamment, mais toujours par le biais, par le truchement de la tradition et des commentaires autorisés. C'est elle, la tradition, qui interprète, donne, commente et explique les Écritures. Le professeur André Gounel relève que le couple Écriture-Tradition forme un bloc indissociable. Et c'est ce bloc que la réforme va faire voler en éclats en posant comme norme de la tradition l'écriture elle-même et non l'inverse. C'est en hiérarchisant que la réforme se fait révolutionnaire. Ce faisant, elle crée de facto un nouveau couple, le couple conscience-écriture. Je cite Luther à la Diète de Worms, le 18 avril 1521. À moins d'être convaincu par le témoignage de l'écriture et par des raisons évidentes, car je ne crois à l'infaillibilité ni du pape, ni à celui des conciles, puisqu'il est établi qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes bibliques que j'ai cités. Tant que ma conscience est captive de la parole de Dieu, je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide. Dans cette citation célèbre, on remarque très bien la rupture du couple Écriture-Tradition, et la naissance d'un nouveau couple, Écriture-Conscience. Et cela va devenir vrai pour tout lecteur, et plus seulement pour une élite. D'où l'impératif de la traduction en langue populaire, afin que tous puissent désormais s'y référer. Et là encore, ce n'est pas tant en traduisant que la réforme protestante se fait novatrice. Cela, d'autres l'avaient déjà fait avant elle. Je pense au Cercle de Meaux, par exemple, à Lefèvre d'Étaples, ou bien encore au Lyonnais Pierre Valdo. Mais c'est en traduisant non plus du latin en langue dite vulgaire, mais directement d'après les textes hébreux et grecs, geste fondateur d'un nouveau rapport au texte même. C'est donc par rapport au statut du texte et dans un nouveau rapport au texte que les réformateurs sont réellement novateurs. Thank you. Revenons à notre question de l'interprétation. Avec ce récit que nous trouvons au chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. « Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe partit sans tarder. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui. Assis dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe y courut, entendit l'eunuque qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?»« Et comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai pas de guide. » Et il invita Philippe à monter s'asseoir près de lui. Et voici le passage de l'Écriture qu'il lisait. « Comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, il a été privé de son droit, sa génération, qui la racontera, car elle est enlevée de la terre, sa vie. » S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit alors la bouche et, partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Fin de citation. Immédiatement après, Philippe baptisera, à sa demande expresse, l'eunuque éthiopien, ouvrant ainsi la porte à l'universalité du christianisme, mais là n'est pas mon propos. Ce que je veux relever, c'est la question de Philippe à l'eunuque. « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?»« Et comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai pas de guide ?» C'est la question cruciale de l'interprétation. Dans le jargon des philosophes et des théologiens, on parle de la question herméneutique. L'interprétation, c'est l'espace de liberté laissé au lecteur afin qu'une parole juste et vraie puisse advenir entre lui et le texte. Et pour cela, il faut un tiers, une sorte de prédicateur. Le philosophe Paul Ricoeur écrit que la tâche du prédicateur consiste à restituer en parole ce qui est donné en texte, ou en d'autres termes, à restituer, avec des mots qui aujourd'hui font sens, ce qui est donné hier comme texte ancien. À la foi de chacun de faire le reste. Et Martin Luther d'ajouter, toute la vie et la substance de l'Église sont dans la parole de Dieu. Je ne parle pas de la parole écrite, mais de la parole vocale, c'est-à-dire prêchée. Et ailleurs, l'Évangile, ce mot ne signifie pas autre chose qu'une prédication, un cri de la grâce et de la miséricorde divine. On ne le trouvera pas dans des livres. Il n'est pas saisissable dans des mots écrits. C'est une parole vive. Fin de citation. La foi vient de ce que l'on entend, nous dit Paul de Tarse dans son Épître aux Romains, et pas de ce qu'on lit. Elle se nourrit donc de la prédication de l'Évangile, non de la seule lecture personnelle et individuelle de la Bible. La Bible, je l'ai dit et je le répète, n'est pas parole de Dieu comme texte, elle ne l'est pas quand on l'enferme dans un placard ou quand on en fait un usage strictement littéraire. Mais lorsqu'elle suscite une prédication authentique, lorsque cette prédication transforme le texte en message vivant et actuel, alors peut surgir et retentir une parole de Dieu dans et par ce travail de l'interprétation. Pour le dire autrement, la Bible ne devient parole divine que par l'action du Saint-Esprit dans le cœur et l'esprit de ceux qui la lisent ou qui écoutent la prédication qu'elle suscite. La parole de Dieu ne se fait entendre que lorsque s'opère la rencontre entre deux discours, celui qui nous vient du dehors, celui que formule l'Écriture, qu'annonce la prédication, et celui qui nous vient du dedans, que nous souffle intérieurement l'Esprit de Dieu. Ainsi, le réformateur suisse Zwingli de dire « L'Esprit qui parle dans la Bible et l'Esprit qui parle à notre âme se confirment mutuellement. » Le travail de l'interprétation s'étendre à réaliser cela dans la foi. Mais allons encore un peu plus loin. Si la Réforme place donc l'Écriture comme seule et ultime norme de la vie et de la foi, elle va encore opérer une distinction supplémentaire entre normes normantes et normes normées. Je m'explique. De fait, la parole n'est pas texte, nous l'avons vu, et pour un chrétien, elle s'est faite chair, comme nous le proclame le prologue de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Quand la parole de Dieu cherche à se faire entendre des humains, lorsqu'elle veut les atteindre et habiter parmi eux, elle ne se fait pas livre, mais chair, c'est-à-dire personne. C'est en Jésus, que le Nouveau Testament appelle Christ, que se donne à rencontrer la parole de Dieu, et non en un écrit. L'avantage même, c'est le Christ lui-même, par sa vie, sa mort et sa résurrection, qui est véritablement parole de Dieu. C'est donc au final Jésus lui-même et par conséquent son message qui sont la seule norme. C'est lui, ce Jésus, qui est pour nous la clé d'interprétation de l'Évangile. C'est lui qui ouvre, fonde et détermine pour moi le travail de l'interprétation. De sorte que nous pouvons dire que tous les récits bibliques ne se valent pas et que non, ils n'ont pas tous la même autorité. Il y a bien, encore et toujours, un travail d'interprétation, de hiérarchisation, de distinction entre ce qui est l'esprit des textes et leur forme historiquement datée et située. Ce travail de lecture critique, nous ne devons pas le faire à la mode du temps et du lieu, mais bien avec comme seule clé le Christ, tel qu'il se donne à rencontrer dans les récits évangéliques et pauliniens. Comme Luther ne veut connaître Dieu qu'à travers le Christ, visage de Dieu pour les hommes, de la même façon Luther ne veut lire la Bible qu'au travers des paroles de l'Évangile du Christ. Car il faut une clé de lecture. Il nous faudra toujours une clé. Il nous a toujours fallu une clé de lecture. Le plus souvent, celle-ci fonctionne à l'insu du lecteur. C'est la philosophie de l'époque, c'est la morale du temps, c'est la théologie dominante qui règne alors. Mais Luther, lui, trouve la clé dans le texte lui-même. Ou plus précisément, non pas dans le texte, mais dans la personne du Christ lui-même. Si la Bible seule, sola scriptura, demeure notre vérité première et reste la norme face à la tradition, Luther nous enseigne qu'il y a une norme de la norme qui se trouve être le Christ lui-même. C'est lui qui est la clé d'interprétation de toute la Bible. C'est avec ces lunettes-là que nous pouvons et que nous devons désormais lire les Écritures, qui deviennent alors véritablement l'écrin d'une parole vivante et vivifiante. Et ce rappel me semble d'une exceptionnelle actualité. Cela nous enseigne qu'il n'y a pas de lecture naïve immédiate qui soit possible du texte biblique. Celui-ci se donne toujours à travailler, à interpréter. Et c'est dans ce travail de l'interprétation que se joue tout à la fois notre liberté et celle de Dieu. À l'heure du retour de tant de fondamentalisme, de tant d'intégrisme, de tant de littéralisme, à l'heure où le religieux ne se fait le plus souvent entendre qu'à travers le masque hideux de l'exclusion et de la haine de l'autre, Luther nous rappelle avec quelles lunettes il convient de lire, les lunettes du Christ lui-même, main de Dieu tendue à l'homme. Les évangiles de Matthieu et de Luc l'illustrent de façon surprenante en mettant en scène un événement étrange, celui dit de la tentation du Christ. Le tentateur vient par trois fois lui tendre un piège, et par trois fois, Jésus lui résiste et lui répond en prenant appui sur les textes bibliques qui le précèdent, en répondant « Il est écrit ». Mais là, attention, ultime piège. Le diable aussi de répondre « Il est écrit ». Et là réside l'ultime mise en garde. Car il ne suffit pas de lire l'Évangile. N'importe qui peut lire et citer l'Écriture sans pour autant être fidèle à la parole. Oui, attention, le diable aussi cite l'Écriture, nous rappellent Matthieu et Luc. Et la remarque est d'importance, elle est même déterminante. Elle représente l'ultime mise en garde devant l'ultime piège, celui de vouloir mettre la parole à sa botte. Car il ne suffit pas d'extraire tel ou tel passage de son contexte pour faire écho à la parole divine. Non. Encore et toujours, il faut reprendre le travail de l'interprétation, en repérant les grands pièges qui nous guettent et nous guetteront toujours. Et ce récit dit de la tentation du Christ nous les révèle à travers son étrange mise en scène. Il nous dit précisément « Attention au piège de lecture, le piège de la lecture magique, matérialiste, je dirais fondamentaliste du message du maître. Le piège de la lecture politique, de la théocratie. Le piège enfin de la lecture angélique immédiate, le piège de l'idole, en somme. » comme le grand exégète Rudolf Bultmann, je comprends ce récit dit de la tentation comme le mode d'emploi, la clé de lecture de tout le texte évangélique à venir. Attention, nous dit-il, de ne pas entendre les évangiles comme autant de preuves de pouvoir magique, les pierres changées en pain, comme l'expression d'un messianisme politique, dominer les royaumes de la terre, ou comme une fuite de notre humanité dans je ne sais quelle pseudo-réalité angélique que les anges nous portent et nous évitent toute chute. Non, le rôle de la Bible est ailleurs, elle est d'être comme un gouvernail pour que nos mains puissent tenir la barre, afin que nos vies et nos intelligences ne tournent pas en rond au seul caprice des flots. Elle est d'être comme une boussole, pour que nos yeux puissent lire, afin que nos aventures aient un sens et n'aillent pas au seul gré de nos passions. Elle est d'être comme un clair ciel étoilé, pour que nos cœurs puissent y être attentifs, afin que nos espérances soient fermes et ne s'effilochent pas au premier ciel d'orage. Voilà ce qu'est la Bible pour moi. Un inépuisable réservoir de symboles, afin de me donner à penser et de nourrir mon existence. Faisons un pas de plus, car les réformateurs vont encore plaider pour une véritable écriture pour tous, non plus réservée aux seuls clercs, mais offerte à tous. Il y a comme une sorte de mouvement de libération des Écritures, de véritable désacralisation de la Bible. Nous l'avons vu, il faut que tous puissent lire désormais, pour cela il faut pouvoir la traduire et prendre le risque d'une lecture plurielle et ouverte à tous. Jamais nous ne pourrons enclore la puissance de la parole de vie dans nos catéchismes ou nos définitions dogmatiques. Car il s'agit bien d'une parole vive, d'une parole à vivre et à faire vivre, comme le musicien fait vivre la partition qu'il a devant lui en l'interprétant justement. Car c'est aussi ainsi qu'il nous faut entendre notre devoir d'interpréter. Une parole existentielle et qui, comme telle, toujours échappera à toutes nos prétentions d'en enfermer le sens. Comme le dit encore le poète Christian Bobin, la Bible est un livre d'air, un déluge d'encre et de vent, un livre insensé, égaré dans son sens, aussi perdu dans ses pages que le vent sur les parkings des supermarchés, dans les cheveux des femmes, dans les yeux des enfants, un livre impossible à tenir entre deux mains calmes, pour une lecture sage, lointaine, il s'envolerait aussitôt. Fin de citation. Un livre dont la lecture et l'interprétation peut nourrir toute une vie. La Bible, me disait une vieille moniale, c'est la nourriture du cœur et le silence, la respiration de l'âme.
Ainsi s'achève cette troisième conférence du Carême protestant avec Jean-François Brenne, pasteur de l'Église protestante unie de France à la paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris. Nous le retrouvons la semaine prochaine, toujours à 16h, pour la suite de ce cycle de conférences intitulé « Coram Deo, vivre devant Dieu ». Pour plus d'informations et pour retrouver les textes, rendez-vous sur le site du Carême protestant, carême-protestant.org, ou bien écrivez au Carême protestant, 27 rue de l'Annonciation, 75 016 Paris. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant Carême protestant. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Alain Joubert pour la prise de son. Une émission proposée par le Carême protestant et la Fédération protestante de France et présentée par Benjamin Bories. Restez à l'écoute pour la suite de vos programmes avec le Carême catholique. Bonne fin de journée sur France Culture.